Bonsoir.
Vous êtes donc comédienne, co-directrice de l'International Visual Théâtre. Et à côté de vous, Jennifer Lesage-David, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-directrice également de l'International Visual Théâtre et vous avez toutes les deux donc collaboré à l'exposition Histoire silencieuse des sourds qui est présentée au Panthéon jusqu'au 6 octobre. Alors avant de parler de l'exposition, une question à vous, Emmanuel Laborie. Vous dites que être sourd, ce n'est pas un handicap. Pourquoi vous dites ça?
Alors, non, pour moi, déjà, un handicap, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que finalement, on est basé sur la norme, on doit tous être pareil, on doit tous être identiques. Non, pour moi, j'en suis fière d'être un peu différente, d'être comme ça, d'être hors de la norme finalement. Je suis unique et je pense que chacun est unique, chacun a quelque chose d'unique en soi. Et c'est ça dont je suis fière aujourd'hui, donc c'est pour ça. Ça n'est pas un handicap, ça n'existe pas le handicap.
Mais pour la majorité des gens, c'est un handicap.
Oui. Effectivement, en France, les sourds sont catégorisés comme une maladie grave au même niveau que le cancer, par exemple. C'est pour ça qu'il faut intervenir très tôt pour soigner ces pauvres personnes. Et évidemment, on a toujours ce lien avec la médecine, le médical, sur l'oreille en permanence. C'est pour ça qu'on crée des lois de dépistage précoce, d'implants. C'est le système français, effectivement, qu'on retrouve parfois dans d'autres pays également. Et c'est vrai qu'on est catégorisé comme tel, mais je ne trouve pas que ce soit adéquat.
Alors, on va justement en discuter de ça, mais pour en apprendre un peu plus sur vous, eh bien, on va découvrir vos portraits à toutes les deux. C'est la règle de trois. Elle est signée Olivier Boucreux.
Silence, langue et ouverture, c'est la règle de trois d'Emmanuel Laborie et Jennifer Lesage-David. Silence. Si c'est une injonction, elles ne l'écouteront pas. Personne ne fait taire les deux directrices engagées de l'International Visual Théâtre, lieu ressource de la culture sourde. L'une, actrice et metteuse en scène, est sourde de naissance, née dans une famille d'entendants, et certains journalistes disent d'elle que c'est une pipelette. Quand d'autres médias dont on taira le nom titrent à son sujet « La sourde muette reçoit le Molière », avec son nom écrit en tout petit, Emmanuel Laborie, récompensé pour les enfants du silence, crie haut et fort que ses yeux sont ses oreilles et que ses mains ont la parole.
C'est la première fois qu'un sourd, comme comédien professionnel, est reconnu et reçoit un Molière.
L'autre n'est pas sourde, se définit comme demi-sourde et son CV est parlant. Conservatoire d'art dramatique, brevet d'état en théâtre et cirque, master 2 en management du spectacle vivant, jouer et faire jouer avec ou sans parole, c'est du sérieux. Histoire silencieuse des sourds, c'est l'exposition à laquelle elles participent toutes les deux au Panthéon, du handicap au réveil, avec des vidéos réalisées par Jennifer Lesage-David. La langue, parlons-en. Ma première, Jennifer, la parle couramment par passion depuis ses 18 ans et revendique sa richesse insoupçonnable. Ma seconde, Emmanuelle, communiquait avec sa mère dans un langage inventé avant d'apprendre la langue des signes à 7 ans. Mon tout pense que l'intégration des personnes sourdes passe forcément par cette langue longtemps clandestine, reconnue officiellement en France depuis 2005. Ouverture au Chansigneur, déjà, c'est Sourd qui chante, avec Dévaste-moi, spectacle enchanteur de Joanie Berthe sur les textes de Bachung ou de Gossip. Ouverture aux autres avec un livre, Le cri de la mouette, dans lequel Emmanuel Laborie racontait sa vie, son combat. L'ouverture, c'est aussi la vocation de l'International Visual Théâtre, rencontre entre la culture de la langue des signes, celle du visuel et de la culture française au sens large. L'ouverture, c'est celle dont devraient faire preuve les gens de théâtre ou de cinéma, en proposant aux artistes sourds autre chose que des rôles de victimes. Victimes, nous? Mais vous êtes sourds ou quoi?
Voilà, une langue d'une richesse incroyable, on va en discuter dans un instant, mais au départ, on va parler bien sûr de cette exposition, Histoire silencieuse des sourds. Elle se tient dans un lieu très particulier. C'est au Panthéon. C'était important d'ailleurs que ça se tienne au Panthéon, Jennifer Lesage-David.
Le Panthéon, c'est une institution importante, donc ça permet de rendre visible cette histoire qui est quand même très méconnue en France, et aussi de faire prendre conscience que depuis 1880, cette langue est dénigrée, malmenée, et qu'elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir en France aujourd'hui, alors qu'il y a eu une époque où la langue des signes était beaucoup enseignée, et il y avait des avocats sourds, des écrivains sourds.
C'était quand ça, cette époque?
C'était suite à l'abbé de l'Épée, puisque c'est lui qui a mis en place la première école pour sourds, et ça c'est...
Donc quelle période, quel...
18e siècle.
18e siècle plutôt. Claude.
Et cette langue est donc un combat. Si on parle d'identité sourde, en réalité, on est comme dans les cultures régionales, la Corse, la Bretagne, on se revendique d'une langue et c'est une identité. Et ça a été pour vous un combat, Emmanuel Laborie?
Oui, absolument. En fait, c'est ça, on se reconnaît comme une minorité linguistique, justement, pas comme un handicap, comme on disait au départ. C'est plutôt une minorité linguistique, c'est ma langue, en fait, et c'est une langue qu'on partage. Ça n'est pas une propriété, ce n'est pas seulement les personnes sourdes qui utilisent la langue des signes, il y a beaucoup d'entendants qui utilisent la langue des signes également, mes parents, par exemple, qui sont eux-mêmes entendants signes. Donc c'est une communication, une langue de communication, et comme la communication est le maître de tout, ça fonctionne. On l'enseigne aux bébés entendants, à la crèche, aux enfants qui ne peuvent pas encore parler, qui ne savent pas encore parler, on leur donne la langue des signes. C'est aussi une option au bac, donc les entendants aussi peuvent avoir la langue des signes. C'est une preuve que la langue des signes, elle est à tout le monde, en fait, finalement. Donc on regarde les sourds de cette façon-là, mais non, pour moi, vraiment, c'est utile pour tous, en fait.
Jennifer Le Sage-David, pendant longtemps, il y a eu des grandes disputes autour du destin des sourds. Il y avait les tenants de l'oralité. Il fallait amener les sourds à apprendre à parler pour être comme nous. Et il y avait les défenseurs du signe, c'est-à-dire de la langue propre à cette minorité linguistique. Comment est-ce que cette bataille s'est jouée et où en sommes-nous aujourd'hui ?
Elle s'est jouée au Congrès de Milan en 1880. Et depuis...
Congrès de Milan, c'est cette... Instance internationale qui décrète que l'oralité doit l'emporter, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, parce que je pense et je le regrette que la surdité est essentiellement régentée par la majorité qui entend, par cette injonction de la normalité, par le corps médical qui cherche à réparer, donc on cherche à réparer la surdité, on veut rééduquer la parole, la lecture labiale pour pousser les sourds à être comme tout le monde. Or, il faut bien avoir conscience que ce chemin de l'oralisation, c'est un parcours de rééducation qui place les personnes sourdes en situation d'effort constant, alors que la langue des signes est une langue naturelle qui leur permet d'avoir accès à toutes les connaissances de manière naturelle et de s'épanouir. Et c'est par la langue des signes que les enfants sourds peuvent apprendre le français, l'anglais, les mathématiques et toutes les connaissances qu'ils veulent et s'épanouir en part entière. Donc moi, je considère qu'il faut d'abord donner la langue des signes aux enfants sourds.
Mais alors, Emmanuel Laborie, il y a quand même une chose qui est assez étonnante. Est-ce que vous, dans cette exposition, on voit que pour devenir citoyen comme les autres, les sourds ont mis beaucoup de temps aujourd'hui. Et on voit en 2019 que seuls 5% ont accès à la langue des signes. Ça veut dire que, pour vous, est-ce que les personnes sourdes sont des citoyens comme les autres ?
Bah, écoutez... En fait, c'est vrai que quand on regarde la France, on dit souvent qu'elle est en retard. On parle souvent de la France. Ah oui, mais nous, on est en retard. Je ne sais pas pourquoi. C'est beaucoup de sujets de société. Et par rapport à l'enseignement, notamment, et l'enseignement en langue des signes, on parlait de libre choix. Mais pour moi, c'est très hypocrite. Parce que dans la réalité, il n'y a pas de choix. Ça devrait être un devoir, ça devrait être un droit humain de donner ça aux enfants. Après, ça n'empêche pas du tout les personnes sourdes de... se faire une rééducation orthophonique pour parler, pour entendre davantage, mais par contre, pousser à, moi, ça me dérange. C'est vraiment, le signe, c'est en dernier recours, en dernière solution, en fait. Mais, et pour moi, non, ça devrait être obligatoire.
Mais vous, vous parlez, mais vous ne voulez pas parler, par militantisme.
Alors, pourquoi ça vous intéresse ? C'est une question... vous avez bien travaillé, effectivement. Oui, en fait, j'adore la langue des signes. C'est vraiment, c'est incroyablement beau, c'est très sexy, c'est très fluide, c'est corporel, c'est presque du théâtre, évidemment, j'adore cette langue. Et parler, il y a des personnes qui parlent bien mieux, je laisse les autres personnes parler bien mieux que moi, je pense que je n'ai pas besoin de parler.
Et cette langue des signes, justement, Sonia, on va voir avec vous qu'elle est en perpétuelle évolution.
Oui, c'est une langue à part entière, vous l'avez dit, et donc, eh bien, comme chaque langue, eh bien, il y a des nouveaux mots, elle évolue avec le temps, des nouveaux mots apparaissent en fonction de l'actualité. Alors, comment ça se passe ? Et qui décide ? Il n'y a pas d'académie française du signe, il existe, par exemple, des dictionnaires, même si ce n'est pas forcément très adapté, parce que la langue des signes, évidemment, elle se parle avec tout le corps, avec le buste, avec l'expression du visage. Plus adapté, le site Elix, un projet porté par l'association Signes de Sens, propose de traduire des mots en français en signes via des vidéos. On va regarder des exemples. Alors, il faut savoir que pour les hommes politiques, les signes se calquent sur une particularité physique. Alors, voilà, on prend un exemple. Emmanuel Macron, comment ça se traduit en langue des signes ? Eh bien, c'est le signe de la patte.
La patte.
Des pattes du président français qui ont été choisies pour le représenter en langue des signes. Quant à Donald Trump, regardez.
C'est là forcément.
Pète, oui. C'est un site participatif. On peut proposer son propre signe en publiant sa vidéo. À noter aussi le rôle important de certains médias qui publient des journaux en langue des signes. Le rôle aussi des interprètes dans la création de ces nouveaux mots. Emmanuel Laborie, par exemple, quel est le dernier signe que vous avez appris ?
Alors ça
Mais est-ce que, par exemple, sur des personnalités, c'est vrai qu'au Panthéon, il y a des femmes et des hommes célèbres. Par exemple, si, quand on parle de Simone Veil ou Marie Curie.
Oui, Simone Veil, effectivement, comme ça, tout à fait.
Gignon.
C'est vrai qu'après, ce n'est pas forcément des nouveaux signes. Il y a déjà des signes qui ont été nommés. Peut-être par rapport aux non-signes des hommes politiques, oui. Parce que quelquefois... c'est parfois des caricatures qui sont utilisées et maintenant, voilà, on évite peut-être, surtout par rapport aux interprètes, ils ne peuvent pas utiliser les signes caricaturaux évidemment en public. Donc voilà, c'est dommage parce que j'adore ça, je trouve ça fait partie de la culture. Moi j'aime beaucoup qu'on se moque aussi, je trouve que les signes en sont le bon relais. Mais parfois il faut être très politiquement correct, donc c'est des signes qui ont double sens aussi, ça peut être intéressant, c'est un peu ce que j'apprends au quotidien.
En tout cas, pour en découvrir davantage, eh bien, c'est au Panthéon à Paris, hein, Histoire silencieuse des sourds. Merci beaucoup à vous Emmanuel.